quand on a préparé cette conférence, on a beaucoup prié. Aussi les frères ici à Feingen et les saints. Nous ne voulons pas juste trouver une conférence ou un thème. Non, ce n'est pas le but. Mais nous voulons savoir exactement ce que le Seigneur fait aujourd'hui et comment nous pouvons nous préparer pour le retour du Seigneur. Bien sûr, tous les chrétiens savent que le Seigneur revient. Et beaucoup de choses arrivent aujourd'hui et beaucoup de chrétiens se réveillent pour savoir et ils ont cette conscience que le Seigneur vient bientôt. C'est étonnant. Dans les derniers mois, à peu près 6 mois, dans YouTube, aux USA, beaucoup de chrétiens ont parlé du retour du Seigneur. Tout d'un coup, il y a tant de commentaires au sujet de la vache rousse. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est vraiment surprenant. Avant, personne n'a mentionné cela. La vache rousse. Maintenant, même le Hamas en parle. Ils ont même dit le 7 octobre l'année passée, c'est à cause de la vache rousse. Comment ça se fait qu'une vache rousse provoque un tel combat en Israël? Est-ce que c'est sobre? Même une guerre. Ça a suscité cette guerre. La pauvre vache rousse. Ça n'a pas de sens. Mais même l'ennemi sait de quoi il s'agit. Le diable le sait, bien sûr. Le diable le sait. Et je remercie le Seigneur qu'il nous donne des signes afin que le monde entier sache que le Seigneur vient. Et aujourd'hui, le diable même sait que ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt. Et beaucoup aux États-Unis, je ne crois pas en Europe. Mais aux États-Unis, beaucoup parlent de cette éclipse. Et même beaucoup de chrétiens en ont parlé. Le Seigneur a donné ses signes pour nous montrer qu'il vient bientôt. Pas seulement pour nous les chrétiens, mais le Seigneur aimerait que le monde entier sache. Même Trump, aux États-Unis, a encouragé. Il a même une nouvelle version de la Bible. Il a dit à toute la nation, il faut que chacun ait une copie de cette Bible. Il faut que chacun ait une copie de cette Bible. Et qu'est-ce qu'on a entendu aujourd'hui? Ce qu'il a dit il y a quelques jours. Lève-toi et dis-le. Et que chacun écoute. Il faut laisser ils vont nous faire écouter ce que Trump a dit il y a quelques jours. Le monde entier en a fait un homme mauvais. Et maintenant, même en Allemagne, il y a une danse diabolique ici en Allemagne, je ne sais pas. Souvenez-vous. Ça, c'est la voix de Trump. Il faut se souvrir de la mort du Seigneur. Et ce dimanche, nous proclamons avec joie, Christ est ressuscité. Christ est ressuscité, il a dit. Le président prêche Christ. Que Christ est ressuscité. Continue. C'est bon. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Est-ce qu'un vilain homme comme Trump peut prêcher à toute la nation que dans ce temps, nous célébrons la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que je peux dire? Ce que les médias disent, c'est tout des mensonges. Mais je peux dire avec certitude que le Seigneur a choisi cet homme. Souvenez-vous, lorsqu'on a parlé d'Ésaïe, on avait dit que Trump est c'est le Cyrus de temps moderne. Et véritablement, les Israélites, lorsque Trump a déclaré Jérusalem comme capitale éternelle de Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël, ils ont fait cette médaille, cette monnaie. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Vous avez vu cette pièce de monnaie que les Israélites ont fait. En fait, c'est Trump avec le roi Cyrus. Et les Israélites, les Juifs ont dit, Trump est le Cyrus moderne. C'est le Cyrus des temps modernes. Ils l'ont dit à l'avance. Et on en avait parlé dans la conférence d'Ésaïe. Vraiment. Lui aussi, c'est un signe. On doit voir cela. Il est aussi un signe. Le Seigneur a donné tant de signes. Mais ce qui est important pour nous, le signe important, c'est que le Seigneur restaure le sacerdoce. Pourquoi? Parce que ce sacerdoce, ce service, c'est le but que Dieu veut atteindre. Lisons Apocalypse ensemble. Je crois qu'il faut que la parole elle-même nous parle. Lisons Apocalypse 1. Je vous lis. Est de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, verset 5. Le premier-né des morts, c'est très important de voir, le premier-né. Alors nous sommes les nombreux fils, les nombreux frères, pardon, est le prince des rois de la terre. Il change de version. Le Seigneur est le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et là, il n'y a pas de point, mais c'est une virgule. Parce que le but, ce n'est pas le salut, mais le but, c'est qu'il nous a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. En français, c'est juste un royaume de sacrificateurs. C'est ce que le Seigneur a dit dans Exode à son peuple. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu a dit, vous, si vous marchez selon ma parole et obéissez à ma parole, vous serez un royaume de sacrificateurs. Et à la fin, il accentue dans Apocalypse ce but. Il accentue encore une fois ce but. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il sauvés? Pourquoi a-t-il payé un prix si élevé pour sauver l'humanité, pour la restaurer? Parce que déjà au début, lorsqu'il a créé l'homme, c'était pour régner pour Dieu. De régner avec Christ en tant qu'homme. L'homme est si important. Votre appel est très important. Notre appel n'est pas juste de faire une œuvre pour Christ. Les gens doivent être sauvés. Pourquoi? Pour aller au ciel? Le Seigneur est revenu sur cette terre. Mais les chrétiens veulent aller en haut. C'est la direction contraire. Le Seigneur aimerait revenir sur cette terre, mais il veut tous monter. Où préfères-tu être? Dis-moi. C'est pas une question. J'aimerais aller au ciel. Pour un tout petit moment. C'est très court. Au trône. Certains m'ont demandé, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que le Seigneur veut qu'on ait une conférence? Il veut nous entraîner pendant 3 ans et demi à régner sur les nations. Ne pense pas que là-haut, on sera devant le trône et on va jouir du cœur des anges. Non, il y a beaucoup à faire. Tu crois que c'est simple de régner? Règne sur Stuttgart, par exemple. S'il te plaît, essaye. Comment est-ce que tu peux régner? On ne peut même pas régner sur notre propre vie. Vraiment. Ainsi aujourd'hui, on doit laisser le Seigneur régner en nous. Si le roi est seulement assis là-haut, mais pas dans ton cœur, qu'est-ce qu'on va faire? Le Seigneur doit déjà régner sur nous aujourd'hui. Nous lui disons Seigneur, mais nous ne faisons pas ce qu'il veut. C'est pour ça, il dit Seigneur, Seigneur, Seigneur ici, Seigneur là, ceci et cela. Mais est-ce que vraiment il est ton Seigneur? Il doit régner dans ton cœur. Est-ce que tu fais ce qu'il te dit aujourd'hui? Est-ce qu'il règne sur tes pensées toute la journée? Nous nous préoccupons de tant de choses et ne demandons pas au Seigneur ce qu'il veut. Lorsque le Seigneur est venu sur terre, il a dit, ces gens m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné, très éloigné de moi. Est-ce que nous sommes des gens comme ça? Si nous voulons régner avec lui dans son royaume, alors nous devons apprendre aujourd'hui à le laisser régner dans notre cœur et faire ce qu'il veut. Comme le Seigneur, lorsqu'il était sur cette terre en tant qu'homme, il devait apprendre l'obéissance. Je n'ai pas compris cela d'abord, plutôt. Mais bien sûr, Seigneur, tu es obéissant à Dieu. Puis, j'ai lu dans Hébreux 5, même le Seigneur a dû apprendre l'obéissance avec larmes même. Il devait apprendre. Il a dû combattre en tant qu'homme. Il est venu dans la chair, bien qu'il soit sans péché, mais il a ressenti la même chose. Il a ressenti la faiblesse de l'homme. Sinon, il ne pourrait pas comprendre pourquoi Philippe est-tu si désobéissant. Alors, il ne comprendrait pas, mais il ressent cette résistance de la chair. Et en tant qu'homme, comme toi et comme moi, il a dû apprendre l'obéissance. Et même avec larmes, et même avec cris, « Seigneur, Père, libère-moi !» Mais on n'a pas cette attitude. Lorsque nous n'obéissons pas, nous faisons cela et nous rebellons contre Dieu. Alors on dit, je ne suis qu'un homme. Alors on a une bonne excuse. Personne n'est parfait. Hein? Est-ce que tu as déjà entendu cela? Oh oui. Oh oui, on n'a pas ce désir, ce cri intérieur. Père, j'aimerais obéir. Je hais cette rébellion qu'il y a en moi. Je ne suis pas d'accord avec mon état. Je veux apprendre l'obéissance. Le Seigneur a crié avec larmes à celui qui pouvait le sauver. Si nous n'avons pas cette attitude, alors on prend tant d'excuses. J'ai eu raison. C'était pourtant pas si grave. On trouve des excuses. Mais le Seigneur, en tant qu'homme, a vécu cela. C'est pour cela qu'il est si qualifié pour être notre souverain sacrificateur. Parce qu'en toute chose, Hébreux nous dit qu'il a été fait comme nous. Il était rendu semblable à nous afin de nous comprendre. Sinon, il ne pourrait pas nous aider. Mais louez le Seigneur, maintenant, il est un tel souverain sacrificateur et il peut nous aider. Mais nous ne nous laissons pas aider. Ça, c'est le problème. Dans Hébreux, il est dit, c'est pour ça qu'il a été rendu semblable en toute chose et qu'il a été tenté comme nous en toute chose, mais qu'il a vaincu. Pas parce qu'il était Dieu, non. Son être en tant que Dieu, son état en tant que Dieu, il l'a laissé là. Et il est venu en tant qu'un homme. Satan a dit, si tu es le Fils de Dieu, alors, fais de ces pierres du pain. Satan voulait lui dire, bien sûr, tu n'es pas un homme, mais tu es Dieu, donc tu peux faire cela. Mais le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Satan dit, tu es le Fils de Dieu. Le Seigneur dit, je suis un homme. Ainsi, le Seigneur est venu en tant qu'homme. Nous devons voir cela. Le fait qu'il soit venu en chair, c'est un pas important. Le fait d'être un homme est un pas important, car nous sommes des hommes. Il ne peut pas nous aider et ni nous comprendre. Ah, il ne peut pas nous aider s'il ne peut pas nous comprendre complètement. C'est pour cela qu'il a passé par tant de souffrances. Personne n'a autant souffert que cet homme. Si quelqu'un te vexe un peu, tu exploses. Mais toute sa vie, ils ont menti à son sujet. Ils l'ont calomnié et ils l'ont même teuté. Et comment a-t-il réagi? Comment réagirais-tu? Personne. En dehors de lui. Personne d'autre que lui. C'est pour ça qu'on doit apprécier l'humanité du Seigneur. Ne te réjouis pas seulement de sa mort à la croix. C'est pas comparable à tout ce temps de persécution. Sa mort à la croix, c'est quelques heures. Mais toute sa vie sur cette terre, en tant qu'homme, il a été tellement persécuté. Et en tant que sacrificateur, on doit aussi apprendre. Sinon, nous ne pouvons pas servir. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous nous sommes tellement divisés. Parce que nous ne pouvons pas supporter la souffrance. Si on a un petit peu des opinions différentes, on dit « Salut, tu n'oses plus venir à la réunion. Tu ne peux même pas lire au sujet de Jean 4 de la vraie adoration. » Bien que ce soit biblique et beaucoup d'autres choses. Combien de disputes viennent de différentes opinions. Nous nous disputons sur chaque verset. Notre humanité est si déchue. C'est pourquoi le Seigneur est venu en tant qu'homme pour nous sauver. Je peux vraiment pas décrire. Je peux pas assez décrire. Rendre la chose tellement claire. Comment le fait qu'il soit devenu un homme est important. Mais les chrétiens parlent seulement de la croix, la crucifixion. Mais le Seigneur a beaucoup plus souffert en tant qu'homme lorsqu'il a vécu sur cette terre. Il a été tenté en toutes choses, de toutes les manières. Qui peut saisir cela? Et nous, même après être sauvés, on a tant de problèmes. On ne peut même pas souffrir un petit peu. Et si quelqu'un nous critique, alors, on ne peut pas dormir pendant 3 jours et 3 nuits. Vraiment. Même pas dans le ventre du poisson, mais tu ne peux pas dormir dans ton lit. Nous sommes ainsi. Déchu. On, on supporte pas la souffrance. C'est pourquoi il y a tant de disputes parmi les hommes, dans la famille, dans l'église, parmi les jeunes. C'est pourquoi nous devons apprécier le fait que le Seigneur soit devenu un homme. Il est devenu cette offrande de fleurs de farine, sans levain. Il est devenu ce pain sans levain. Il avait fait un jeu de mots ce matin à ce sujet. Il est sans levain, sans péché. C'est pas qu'il n'a pas été tenté. Il a souffert bien plus de tentations que nous tous même réunis. Quel homme! Même Pilate a dû reconnaître quel homme! Alors aujourd'hui, on doit aussi voir quel homme! Là, on doit apprécier le Seigneur. Cette offrande de fleurs de farine est si importante. Elle est si importante de la manger pour les sacrificateurs dans le lieu saint. Il y a cette table d'or avec des poulets? Non. Avec une salade de légumes? Comme on a mangé à midi? Non. Qu'est-ce qu'il y a sur cette table en or? Des pains sans levain, fraîchement cuits. Dieu doit le voir. Il doit les éprouver. Il aimerait les éprouver. Pendant 6 jours, ça doit rester là, avant que les sacrificateurs puissent les manger. Ça, c'est une nourriture particulière pour les sacrificateurs. C'est du pain des cieux, du pain sans levain. C'est une image qui est meilleure que 1000 mots. Sinon, comment est-ce qu'un homme peut décrire cela? Louez le Seigneur. En tant que sacrificateur, nous devons manger cette nourriture, son humanité. On doit pouvoir s'en réjouir. Et mieux encore, la manger tous les jours. Tu ne peux pas manger un jour pour toute la semaine, ça ne va pas. Un déjeuner, ça suffit pour toute la semaine, non? Particulièrement pour ton travail, non, ça ne va pas. Tous les jours, nous devons manger ce pain. Sinon, nous ne pouvons pas régner. Ce dont nous avons besoin et qui est très important, ce n'est pas seulement le pardon des péchés. Sinon, après que le Seigneur ait lavé tes péchés par son sang, alors maintenant tu es super fort? Non. Le sang est seulement pour le nettoyage, pour le lavage. Mais il faut manger. C'est cela qui te rend fort. Et en bonne santé. Celui qui me mange vivra par moi. Le Seigneur l'a dit. Celui qui me mange, je suis le pain des cieux. Pour sauver les hommes. Pourquoi? Le Seigneur devait-il devenir un homme? Pour sauver les hommes qu'il avait créés pour son plan? Non. Le Seigneur a donné 6000 ans aux hommes pour régner. Comment le peuvent-ils? Tout est en guerre. Il y a des morts, des meurtres, de la corruption. Ils veulent avoir la puissance. Et si tu n'es pas d'accord, terminé. Dans chaque pays, c'est comme ça. Si tu ne te si tu ne te prosternes pas devant la statue de Nebuchadnezzar à ce moment-là, du temps de Darius, qu'est-ce qui se passe? Ils te mettent dans la fournaise. Heureusement. Heureusement, ils vous ont juste jeté dehors. Mais sais-tu? Si quelqu'un déteste un frère, déjà dans son cœur, il y a un meurtre. C'est ce que le Seigneur a dit. Seigneur Jésus. Et où ont-ils jeté Daniel? Dans la fosse aux lions. C'est ainsi qu'il règne. Et le monde entier, en Asie, en Europe, ils ne sont pas meilleurs. Non, ils sont tous chairs, nés d'Adam. Ce qui est né de la chair, dit le Seigneur, c'est la chair. Ça reste chair. C'est pourquoi on doit être né de nouveau, recevoir une vie totalement différente. Ainsi, louez le Seigneur. Pour régner, nous avons besoin d'une nouvelle humanité. C'est pourquoi l'œuvre de Christ commence, pas seulement dans son humanité, il a vaincu Satan, pas seulement en tant que fils de Dieu, bien sûr, sinon Satan aurait dit, évidemment, tu es Dieu. Alors forcément, tu gagnes. Dieu voit ce petit dragon comme une petite fourmi. D'un souffle, il le détruit. Mais Dieu ne veut pas faire cela. Et c'est si important. Dieu veut nous utiliser, les hommes. Dieu aimerait utiliser les hommes. C'est pourquoi il a payé un tel prix pour nous racheter, pour nous ramener à Dieu. Pas pour que nous soyons là-haut dans les cieux à nous réjouir. Parce que dès le début, c'est pourquoi on a dit dès le début, Dieu ne changera jamais son dessein. Il n'abandonne pas. Bien que l'homme soit déchu, soit tombé, il le savait déjà. Il n'a pas arrêté l'homme. Ne crois-tu pas que Dieu savait que le serpent allait venir? Il le savait. Mais le laisse faire. Il a sa solution, comme avec Job. Dieu avait une conférence là-haut, avec les fils de Dieu, avec les anges. Et qui est apparu là, Philippe? Satan. Non, on doit le rejeter. Quoi? Tu l'invites à la conférence avec Dieu? Est-ce que tu ferais cela? Je crois pas. Mais Dieu est différent. Il a laissé venir Satan. Et là, Dieu a dit, d'où viens-tu? Bien sûr, Dieu savait. Je suis allé ici et là, sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait en allant ici et là? Il cherche à engloutir des hommes. Et Dieu lui a dit, « Bien, as-tu vu mon serviteur Job ?» Louez le Seigneur. Dieu a un homme sur cette terre à ce moment-là. Et il a dit à Satan, quelle victoire pour Dieu. Et Satan a dit à Dieu, bien sûr, il t'aime. Tout lui arrive, tout ce qui est bien lui arrive. Bien sûr, avec tout ce que tu lui as donné. Évidemment qu'il t'aime. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu peux tout faire avec cet homme, tout ce que tu veux, mais épargne sa vie. En fait, ce Job est une petite image de notre Seigneur qui est venu en tant qu'homme sur cette terre. Et Satan a tout fait, ce qu'il a pu, pour le détruire. Ou pour le mettre sous ses pieds. Louez le Seigneur. Quel homme est l'œuvre de Dieu commence par Christ qui devient homme et qui va à la croix. Est-ce que ça suffit? Non. La mort n'est pas la fin. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. L'ennemi le plus fort, c'est la mort. On doit encore le voir. La mort. C'est pourquoi nous avons besoin de la vache rousse. Le Seigneur n'est pas seulement l'agneau de Dieu qui est mort pour nous à la croix, mais il est aussi la vache rousse. C'est toi qui vas en parler, n'est-ce pas? Mais personne ne parle de la vache rousse. Marcus va en parler. Nous ne parlons que de l'agneau de la Pâque, mais personne ne parle de la vache rousse. Le Seigneur est ressuscité. Et Paul voulait connaître la puissance de sa résurrection. Tout le monde sait que le Seigneur est ressuscité. C'est pourquoi ils ont ces jours de fête, c'est maintenant. Mais si c'est juste un jour de congé, alors ça ne sert vraiment à rien. Même Trump le sait. Mais Paul voulait connaître la puissance de sa résurrection. Parce que Paul a résisté à la mort, pas seulement au péché. Nous ne reconnaissons que le problème du péché, mais nous ne reconnaissons pas le problème de la mort. Ainsi, le Seigneur devait aussi ressusciter des morts. Louez le Seigneur. C'est si merveilleux. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et même, il a pris la clé du Hadès et de la mort. Celui qui a la clé, il règne. Louez le Seigneur. Il a la clé de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi dans Apocalypse 1, le Seigneur, à la fin du chapitre, dit, n'aie pas peur. J'étais mort, j'étais vivant, j'étais mort, maintenant je suis vivant pour toujours. Et il n'est pas seulement vivant, mais maintenant il règne sur la mort et sur le séjour des morts. Quel Christ! Est-ce que c'est tout? La résurrection, ça suffit. Qu'est-ce qui est le plus important? ça vient. C'est quoi? C'est qu'il est monté en ascension et qu'il est assis sur le trône en tant qu'homme. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, c'est que nous régnions. Et pourquoi le Seigneur ne règne-t-il pas directement? Parce qu'il aimerait que beaucoup règnent avec lui. C'est pourquoi le but d'Apocalypse, de la rédemption, c'est de faire de nous un royaume de sacrificateurs. Et le chapitre 5 d'Apocalypse dit qu'on va régner sur la terre, pas au ciel. Ils régneront dans les cieux. Non. Là, tu ne peux pas régner. Lui peut régner, mais pas toi. Mais, lorsque le Seigneur revient, pendant les 1000 ans, on régnera avec lui. Lisons Hébreux 2. Hébreux 2, Hébreux 2, ça c'est une citation du psaume 8, mais ici, on peut mieux lire, c'est au verset 5, c'est si merveilleux de lire un tel verset, il n'y a pas beaucoup à dire. Il dit, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir. Ça, c'est important. Quand est-ce que Dieu a-t-il soumis la terre aux anges? C'est avant Adam. Lorsque Dieu a créé les anges. Dans Job 38, il en parle. Il demande à Dieu, « Où étais-tu lorsque j'ai créé la terre ?» Bien sûr, Job n'était pas là. Mais il voulait accentuer cela. Et Dieu a fondé la terre. Il a fondé la terre. Dieu n'a pas créé un chaos. Il a tout fait en ordre. Si beau. La terre était si belle que tous les fils de Dieu se sont réjouis. Tous les anges se sont réjouis. C'est si merveilleux. Tu penses que si Dieu avait créé un chaos, que dirais-tu si tu avais été un ange à ce moment-là? Est-ce que tu te serais réjoui ou t'aurais dit « Oh, quel chaos !» Mais j'aimerais juste dire avec cela, les anges ont d'abord régné. Lucifer, le premier ange, le premier. Il s'appelle aussi l'étoile du matin. Il était si beau. C'était le plus sage parmi les anges. Il a régné. Et il voulait même devenir Dieu. C'est stupide. Et il est tombé. On lit ça dans Ézéchiel. Mais Dieu, dès le début, n'avait pas comme but que les anges règnent pour toujours. Alors Dieu, dans Genèse 1, a créé l'homme pour qu'il règne. Les anges n'ont régné qu'avant Adam. C'est pourquoi il est dit ici, Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir. Dans le monde dont nous parlons, mais l'homme. C'est pourquoi il cite ici le psaume 8. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. C'est David qui avait écrit cela et qui avait dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Qu'est-ce que l'homme ? » C'est de la musique à mes oreilles. Je suis heureux de ne pas être un ange. Toi, aimerais-tu être un ange ? Il y a un ange. On avait déjà montré cela avant. Qu'est-ce que l'homme ? Tu dois apprécier d'être un homme. Qu'est-ce que l'homme ? Pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme. Le Seigneur s'est souvent nommé en tant que Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Ça, c'est ton futur. C'est pourquoi vous ne devez pas aimer le monde. Dans le monde, tu n'as aucun futur. Ton chef ne va pas te couronner de gloire et d'honneur. Oui, il te donnera quelques euros. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et ici, il est parlé de Jésus. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Ça, c'était pour l'homme. C'est ce que dit Dieu dans Genèse 1. Puis il a dit, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Dans un sens, c'est vrai. Les animaux sont sous nos pieds. Mais vous avez tant d'animaux domestiques. Seigneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Il n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient soumises. Nous ne voyons pas encore. Mais nous voyons Jésus. Louez le Seigneur. Et c'est si important, parce que Jésus veut tout restaurer. Ce que Dieu avait comme but avec l'homme. C'est pourquoi tout ce que Jésus a fait, c'est pour nous. Est-ce que c'est pas merveilleux? Tu ne crois qu'à la rédemption. Tu ne crois qu'à celui qui t'a sauvé de tes péchés. Mais tu vois pas plus. Puis tu veux aller au ciel. Billy Graham a dit là. Quelqu'un a demandé à Billy Graham. Tu peux écouter ça dans Internet ou YouTube. Vous voulez tous aller au ciel. Mais qu'est-ce que vous voulez faire là? Billy Graham a répondu. J'aimerais jouer du golf là-bas. Je peux aussi le faire sur la terre. jouer du golf. C'est très triste. C'est pas un vice, c'est vraiment triste que nous, chrétiens, nous sachions pas ce que nous allons faire au ciel. Le Seigneur aimerait qu'on règne avec lui sur cette terre. Ça, c'est notre appel. C'est ton appel. C'est ton appel. Nous pensons trop peu, nous estimons bon marché notre appel. Pour être roi, nous devons apprendre aussi à être des sacrificateurs. Ne pense pas. Oui, être sacrificateur. On amène juste des offrandes à Dieu. Vous devez y penser, ce n'est pas si simple d'apporter une offrande à Dieu, et même la meilleure, chaque dimanche. Est-ce que tu penses que Dieu est satisfait avec cela? Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? C'est pas pour lui, mais c'est pour nous, afin que nous apprenions à nous réjouir de Christ, à l'expérimenter, à savoir comment il est, pour nous entraîner. Comment être comme Christ? Il est venu en tant que celui qui était entièrement pour le plan de Dieu. Je suis venu pour faire ta volonté. Que font les hommes sur cette terre? Nous, nous faisons ce que nous voulons. Notre vision est beaucoup trop peu élevée. Tu voudrais peut-être juste être un chef dans ta compagnie. Tu veux avoir une grande maison. J'ai rien là contre de bâtir une halle. Tu peux l'avoir. C'est égal. Quel est ton désir sur cette terre? Que veux-tu atteindre sur la terre aujourd'hui? Dis-le-moi. Quel est ton but? Même en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir une vision de ce que Dieu veut. Lorsque le Seigneur Jésus est venu, on peut lire dans Jean 6, ma nourriture est de faire la volonté du Père et de l'accomplir. Nous, nous faisons les choses à moitié. Et après, soit on est trop fatigué, soit on change d'idée et on abandonne. Ou alors on est content d'atteindre un certain but, puis on ne va pas jusqu'au bout. Quelqu'un a dit une fois, on n'a pas besoin de nouvelles révélations. On doit juste réchauffer les vieilles choses. Tu aimes manger de la vieille soupe. Est-ce que tu penses que le Seigneur n'a pas plus à nous montrer? Est-ce qu'on est déjà des docteurs qui savent tout? Est-ce que tu es un tel docteur? Tu sais tout? Non. Paul, dans Colossiens, Éphésiens, Philippiens, toutes ces lettres, il les a écrites. Et il dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint le but. Il dit dans Colossiens, nous ne connaissons aujourd'hui qu'en partie. Pardon. Dans 1 Corinthiens, il dit cela. Aujourd'hui, nous ne connaissons qu'en partie. Est-ce que tu connais déjà tout? Tu es déjà satisfait? Qui est déjà satisfait, si j'ose vous demander? Avant, à l'époque, je pensais Est-ce que Paul n'est pas déjà arrivé au but? Et il dit, je ne suis pas encore parfait, mais je cours. J'aimerais continuer. Il voulait aller plus loin, jusqu'au but. Et il dit, j'aimerais le connaître encore plus. Comme s'il ne l'avait encore pas connu. J'aimerais connaître la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Combien de souffrances de Christ as-tu vraiment expérimenté? En tant que sacrificateur, tu ne peux pas souffrir? Comment est-ce que tu peux servir alors en tant que sacrificateur? Au lieu de porter les seins sur tes épaules, tu dis, celui-là, je ne l'aime pas. Tu le jettes. On doit pouvoir porter. Si tu ne peux pas les porter, alors tu les amputes. Tu amputes ce membre, celui-ci, celui-là. À la fin, tu n'as plus le corps de Christ. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Les sacrificateurs. Penses-tu que le Seigneur aimerait nous amputer? Combien de fois as-tu fait quelque chose contre le Seigneur? Que tu as été désobéissant? Combien de fois est-ce que tu l'as offensé? Il hoche la tête. Il ne sait pas combien de fois, parce que c'est trop souvent. Est-ce qu'il t'a amputé? Non. Mais il t'a sauvé. Il nous a tous sauvés. Afin qu'aujourd'hui, on puisse continuer. Ça, c'est la grâce de Dieu, sa miséricorde. Amen. Heureux, les miséricordieux. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est miséricordieux? Seigneur Jésus. Un tel homme. C'est pourquoi nous avons besoin de ces différentes offrandes. Sans Lévitique, tu ne peux pas vraiment pleinement saisir Christ. Certains disent, oh, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Écriture. C'est l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance, c'est que Dieu nous traite selon la loi. Mais, de Genèse à Malachie, ce sont les saintes Écritures. Le Seigneur a cité les saintes Écritures. Il n'a pas cité l'Ancienne Alliance. Dans Timothée, il est dit, que toute écriture est le souffle de Dieu. Et elle est utile. Comment tu peux dire que c'est l'Ancien Testament et ça ne sert à rien? Non, c'est les saintes écritures. C'est le souffle de Dieu. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu n'as plus besoin des 10 commandements? C'est plus utile. Tu n'as pas besoin d'aimer Dieu de tout ton cœur. Même le Seigneur a dit. Toute la loi est inclue dans 2 Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le deuxième, c'est semblable au premier, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si tu ne fais pas ça, tu dois m'amputer parce que je suis ton prochain. Est-ce que tu n'as pas besoin des 10 commandements? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux commettre l'adultère, voler? Est-ce que tu as le droit aujourd'hui? Oh, c'est l'Ancien Testament. Non. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour annuler la loi, mais pour l'accomplir. Louez le Seigneur. Et maintenant, nous aussi, on peut l'accomplir parce que celui qui a accompli toute la loi habite maintenant en nous. Comment est-ce qu'on peut dire on n'en a plus besoin? Non. Au contraire. Nous devons et nous pouvons l'accomplir. Mais pas par nous-mêmes, mais par ce Christ merveilleux qui est notre vie. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous avons part à sa nature. Nous le mangeons. Nous vivons par lui. Et ça, c'est la réalité de toutes ces offrandes. Nous devons apprendre à manger Christ. Ne pense pas que ce soit si simple. Ce n'est pas seulement de la fleur de farine en allemand. Est-ce que tu manges de la fleur de farine tous les matins? De la fleur de farine. As-tu mangé de la fleur de farine ce matin avec ton café? Ça doit premièrement être travaillé. Avec un peu d'huile. Et alors, ça doit être cuit. Ça doit être cuit. Aimes-tu être cuit? Être dans le four? Ou dans la poêle? Il y a beaucoup de sortes de gâteaux, de galettes. Et penses-tu que la préparation est facile? C'est facile de faire un gâteau ou des petits pains? Ça doit être cuit. Ça doit passer par le feu. Malachi a dit que l'or et l'argent doivent être éprouvés par le feu. Quelqu'un a posé une question une fois à quelqu'un qui nettoyait cet argent par le feu. Comment est-ce qu'on dit en allemand? Qui fait passer l'argent par le feu. Et il a dit, mais combien de temps ça doit rester dans le feu? Tu sais quelle était la réponse? Il était assis là, cet homme, celui qui raffinait l'argent. Il a dit, j'attends. Il devait faire attention. Il devait bien regarder. Il devait être assis avec patience jusqu'à que dans ce pot-là, avec l'argent, qui était en train d'être cuit, puis purifié, jusqu'à ce qu'il puisse voir son visage dans cet argent. Et cet argent était purifié. C'était comme un miroir pour refléter son visage. Alors c'était bon. Et le Seigneur s'est comparé à un fondeur. C'est ce qu'on a lu dans Malachie. Jusqu'à ce qu'il voit sa propre image en nous. Ça, c'est la transformation. Ça, c'est la transformation. Ça, c'est le moyen. Et il doit attendre longtemps. Il doit être patient. Ce n'est pas si simple d'être sacrificateur. On doit apprendre à expérimenter Christ comme holocauste, comme offrande de fleurs de farine, mélangée à cette huile et qui devient un gâteau qui est préparé. Le Seigneur a passé par toutes sortes de souffrances. Ça, c'est la manière de manger Christ, Jésus-Christ, en tant qu'offrande de fleurs de farine. Si nous ne faisons pas cela, alors on aura des problèmes. Et c'est pour ça que Dieu attend de nous que nous lui amenions ces offrandes. Parce que s'il ne l'avait pas ordonné, tu ne le ferais pas. Personne ne le ferait. Parce que dans notre chair, dans notre moi, nous ne sommes pas prêts. Combien il y a eu de problèmes dans les 60 dernières années de ma vie, du monde. De toute façon, le monde a des problèmes, mais parmi nous, les chrétiens, il y a tant de problèmes. Et en moi-même. Nous voyons tous ces problèmes. Puis, on a l'offrande de paix. L'offrande de paix. Est-ce que c'est facile d'avoir la paix? Est-ce qu'on a la paix à la maison? Est-ce qu'il y a la paix dans ton cœur? La paix avec toi-même? Même avec nous-mêmes, nous n'avons pas de paix. Il y a tant de problèmes. Le Seigneur est notre offrande de paix. Les sacrificateurs ont besoin de cela pour nous amener au but. C'est pas juste d'amener quelque chose à la fête le dimanche. La paix. Louez le Seigneur pour la paix. Le monde entier désire la paix. On a chanté ce chant par le passé. Mais il n'y a que des guerres et des disputes, pas seulement dans le monde, mais parmi nous. L'offrande de paix. Est-ce qu'on aime cela? Aimes-tu l'offrande de paix? Apporter au Père une offrande de paix, est-ce que ce n'est pas merveilleux? C'est un royaume de justice et de paix qui va venir. Mais si aujourd'hui nous n'avons pas la paix, si nous ne procurons pas la paix, heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, pas ceux qui produisent du trouble. Heureux ceux qui procurent la paix. Car ils seront appelés fils de Dieu. C'est un signe d'un fils qui est mûr, qui est adulte. Les enfants se disputent, c'est leur nature, c'est leur liberté. Ils se disputent. Mais j'espère que nous ne nous disputons plus si souvent. Plus nous croissons, moins nous nous disputons. Ainsi, cette offrande est en fait, selon la sagesse de Dieu, pour nous, pas seulement pour lui. Dieu n'a pas besoin de paix. Il ne se dispute avec personne. Est-ce que Dieu a déjà eu des disputes avec les anges là-haut? Ainsi, l'offrande de paix il n'en a pas besoin, mais pour toi, pour nous, pour les sacrificateurs, nous avons besoin de paix. C'est pourquoi nous devons expérimenter Christ en tant que la paix. Il est notre paix. Est-ce qu'il n'est pas notre paix? Où est-ce écrit? Éphésiens 2. Et l'évangile est appelé l'évangile du salut. Non. Dans Éphésiens, il est parlé de l'évangile de paix. De manière bizarre, nous, les chrétiens, nous sommes divisés et nous n'avons pas la paix. Nous sommes sauvés, mais nous n'avons pas la paix. Quel évangile avons-nous prêché? Partout où nous, chrétiens, allons, nous devons mettre ces chaussures de l'évangile de paix. Seigneur Jésus. C'est pourquoi, en tant que sacrificateurs, nous avons besoin de toutes ces offrandes. Certains vont dire que c'est l'Ancien Testament. Nous ne brûlons pas d'animal ici. À la fin, toute cette école serait brûlée, sinon. Et il ne nous permettrait certainement plus de nous réunir ici. Puis, avec cette offrande de paix, nous devons avoir cette offrande par agitation. Et il y a cette poitrine en tant qu'offrande. On doit l'agiter. Ça, c'est la résurrection. Pourquoi est-ce que nous nous disputons? Parce que nous avons, bien qu'ayant parlé de la vie, souvent nous sommes dans la mort. Et celui qui est dans la mort, Éphésiens nous dit que, à l'époque, nous vivions, nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés. On a le temps, n'est-ce pas? Lis-le, toi. Vous étiez mort. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez mort. Les gens diraient, non, je ne suis pas mort, je suis vivant. Mais c'est une mort particulière. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde. Mais on aime encore toujours le monde. Pas parce que nous sommes pécheurs, mais parce que nous sommes morts. Selon le prince de la puissance de l'air. Il règne encore au-dessus de nous. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Merci. Ça, c'est la description de la mort. Pas que nous expérimentions la mort physique, mais ça, c'est la mort qui vient par le péché. Quand le péché vient, la mort vient. Et ça, c'est ce qui se passe avec un vivant mort, un mort vivant. Nous sommes vivants, mais nous sommes morts. Vous étiez morts dans vos enfances. Ça veut dire face à Dieu et face à sa nature, face à ce qu'il est. Nous ne pouvons pas suivre ce qu'il dit. Nous sommes faibles. Pourquoi sommes-nous tous si faibles face aux choses spirituelles? Lorsque nous lisons la parole, nous nous endormons. Quand nous disputons, alors nous sommes très vivants. Ça, c'est la mort. Une description courte de ce que signifie la mort, même étant chrétien. Nous avons encore ces convoitises de la chair qui règnent sur nous. Et souvent, nous savons ce que nous devons faire. Ça nous démange de nous disputer et on ne peut pas résister. Lorsque des pensées viennent, nous ne pouvons pas les rejeter, nous ne pouvons pas dire non. Nous sommes désobéissants quand le Seigneur dit quelque chose. Ce n'est pas seulement le péché, mais c'est la mort qui nous rend incapables d'obéir à Dieu. Et à la fin, comme Éphésiens 4 l'a dit, nous sommes coupés. Nous n'avons pas de sentiment de vie. Il a été étouffé, ce sentiment. Le cœur est alors dans les ténèbres. Il est endurci. Ça, c'est ce que œuvre la mort. C'est ainsi. C'est pour cela que nous sommes sans paix. Pourquoi savons-nous que nous ne devons pas nous disputer, mais toutefois nous le faisons? Nous savons que nous devons nous aimer, mais nous n'y arrivons pas. Et le monde nous attire. Nous avons besoin de cette offrande par agitation, puis de cette offrande par élévation. L'offrande par élévation, ça veut dire que nous sommes au-dessus de tous les problèmes. Nous sommes au-dessus de tous les problèmes. Plus nous nous élevons, nous sommes assis avec lui dans un lieu céleste, alors tous les problèmes sont sous nos pieds. Sinon, les problèmes sont au-dessus de notre tête. Alors nous avons des problèmes. Alors nous aurons des problèmes. Toutes ces offrandes, nous devons apprendre à les connaître en tant que sacrificateurs. Et ce matin, tu as parlé de l'offrande pour le péché. Nous devons avoir une grande offrande pour le péché. Nous devons régner sur le péché. Pas être dominés par lui, mais nous dominons sur lui. Nous sommes libérés. Le péché ne doit pas avoir de domination sur nous. Nous devons apprendre à offrir cette offrande, à l'expérimenter, à la manger. Nous devons croître. Ce n'est pas qu'après être nés de nouveau et après avoir été baptisés, nous ne péchons plus. Non, ce n'est pas selon notre expérience de notre vie chrétienne. Mais plus la vie grandit en nous, plus nous expérimentons Christ en tant qu'offrande pour le péché, plus nous sommes libérés. Louez le Seigneur. À la fin, c'est même nous qui régnons. Nous disons même, Satan, fuis loin de moi, va-t'en. Arrière de moi, Satan. Ainsi, toutes ces offrandes que nous faisons aujourd'hui, tout ça, c'est un entraînement pour les sacrificateurs. Inconsciemment, ça, c'est la sagesse de Dieu. Certains disent, c'est l'Ancien Testament, nous n'en avons pas besoin. Qui dit cela? Penses-tu que la Pâque n'est plus nécessaire, n'est plus valable pour nous? Que dit 1 Corinthiens 5, verset 7? Christ, notre Pâque. Il est l'agneau. Il est l'agneau de la Pâque qui a été immolé. C'est pourquoi nous ne devons plus célébrer la fête des pains sans levain. Non. Il dit, on doit observer la fête des pains sans levain. C'est merveilleux. Nous faisons exactement ce que le Seigneur nous dit dans les Écritures. Louez le Seigneur. C'est vraiment merveilleux. Et Christ est aussi notre libation. Tous ceux qui ont été fidèles ont été des martyrs. Paul a dit, je suis prêt à être déversé comme une libation. Tous les apôtres ont été des martyrs. Cette consécration est si absolue. Vraiment, tous les apôtres ont été des martyrs. Notre consécration n'est que quand j'ai du temps, n'est-ce pas? Quand je désire être consacré. Le Seigneur n'a pas fait ce qui lui plaisait à lui. Louez le Seigneur. J'espère que tous nous puissions voir l'importance de ce service. Ne pensez pas que nous savons tout ce soir. J'aimerais juste fortifier cela et dire comme c'est important. Plusieurs ont demandé comment est-ce qu'on peut se préparer pour le retour du Seigneur. Ça, c'est le secret. C'est le chemin. Ce service sacerdotal est le chemin. Manger Christ et le boire, c'est le privilège des sacrificateurs. Ils ont une nourriture particulière. Louez le Seigneur. Si on apprend encore mieux à l'amener au Seigneur, au Père, inconsciemment, même si nous ne savons pas que nous changeons, ça, c'est la véritable transformation. Tu ne le sais même pas toi que tu es différent, que tu es changé. C'est la croissance de la vie. Tu ne sais même pas que toi-même tu as changé, mais les autres le voient. Louez le Seigneur. Chaque année, nous croissons. En es-tu conscient? Non. Mais nous croissons. Nous n'avons pas besoin d'être conscients de croître. Nous ne sommes plus les mêmes. Ça, c'est la transformation de la vie. Louez le Seigneur. Tu ne dois pas chaque jour regarder si tu es transformé ou si tu as grandi. Mais si on est fidèle pour expérimenter Christ en tout et qu'on fait tout avec lui, tu seras transformé. C'est même pas nécessaire que tu saches que tu es transformé. Louez le Seigneur. Ça, c'est le service sacerdotal. Louez le Seigneur. Continuez à vous exercer en Allemagne. Chaque jour, en tout temps, à la maison, dans toutes choses. Ne murmure pas, mais expérimente Christ, mange-le. Le pain de vie. Expérimente Christ en tant qu'Holocauste, alors tu remarqueras que ta vie change sans que tu en sois conscient. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Si nous voyons cela, alors vous ne mépriserez pas le service sacerdotal. Ce n'est pas qu'une chose que nous faisons parmi d'autres, non. Le service sacerdotal englobe toute la vie chrétienne. Ça englobe l'édification de l'Église. Si on parle que de l'édification, à la fin, tout s'effondre. Si tu fais tant de choses, qu'est-ce qui se passe à la fin? Mais le service sacerdotal, c'est vraiment, ça inclut tout. Parce que en tout, nous expérimentons ce Christ dans tous ses aspects. Le Seigneur a dit que le zèle de sa maison m'a dévoré. Mais comment? Par la vie. Pas par un enseignement particulier. Ça n'édifie personne. Mais Jésus-Christ, sa vie, peu importe ce que tu fais, elle est pour l'édification de la maison de Dieu. Et aussi sa mort et sa résurrection. Il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Le Seigneur est ressuscité. Et il a commencé à bâtir son Église. Et qu'est-ce que c'est son Église? C'est ce service sacerdotal. C'est ce sacerdoce, c'est Sion. Là où le Seigneur est la pierre angulaire. Où il est la tête sur toute chose. Où il est le roi. Et on est édifié avec des pierres vivantes. Louez le Seigneur pour sa maison spirituelle. Maintenant, nous savons comment nous devons nous préparer pour sa venue. Louez le Seigneur. Exercez-vous.